Alors qu'une exposition à Prague rappelle la vie sous le régime nazi, dans les pays tchèques et les 70 ans de la mort du chef du protectorat Heydrich, nous vous proposons de revenir sur la vie des nazis en Bohême et en Moravie, et plus particulièrement sur l'un des principaux protagonistes, Adolf Eichmann.
Chapitre de l'histoire.
Le 8 mai dernier, nous célébrions les 66 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe. Aujourd'hui, nous revenons sur le rôle des nazis en Bohême-Moravie et plus particulièrement sur un protagoniste que nous avons évoqué dans un des précédents chapitres de l'histoire, Adolf Eichmann. Question slave, question tchèque, voici des aspects méconnus de l'idéologie des nazis et de leurs projets en Europe centrale et orientale. Certes, et c'est la différence avec la question juive, lorsque Heydrich évoque ses projets pour l'avenir des Slaves, il s'agit surtout de mobilisation idéologique. Nous sommes dans un plan à long terme, repoussé à l'après-guerre, mais on sait aussi que l'une des spécificités du nazisme, c'est ce passage si rapide du verbe à la réalité, du fantasme idéologique à la réalisation pratique. Le journaliste Stanislav Motel évoquait avec David Allon la question slave.
Tenhle národ, když mluvím o Češích, tak byl rozdělen do tří kategorie, to skutečně rozdělili.
Dans le protectorat de Bohême-Moravie, les Tchèques étaient divisés en trois groupes. En premier, les irrécupérables. Pour eux, c'était la liquidation immédiate. C'était le cas des juifs, des communistes, des sociodémocrates et des intellectuels. Liquidation. Le deuxième groupe devait être épargné et rester en vie. Mais ces gens devaient être enrôlés pour le travail forcé de la mer du Nord jusqu'à la Patagonie en Amérique latine. Et puis il y avait un troisième groupe, celui des Tchèques germanisables.
S'il s'agissait là d'un plan à long terme, Stanislav Motel rappelle que des examens raciaux avaient déjà commencé à être pratiqués pendant la guerre.
Tam je zajímavé, já jsem četl ty testy.
Des tests ont commencé à être entrepris par les nazis. Je repense à l'un de ses protagonistes. C'était le chef des jeunesses hitlériennes pour la Bohème-Moravie. Puis il est devenu le secrétaire personnel de Reinhard Heydrich. Après la guerre, il fera carrière au Bundestag, le Parlement ouest-allemand. Il fut député jusqu'aux années 1970. Il avait écrit une thèse sur la manière de germaniser la nation tchèque. Il y soutenait, par exemple, que les plus aptes à cette germanisation n'étaient pas les habitants de Bohême, mais les Moraves.
On tam napsal, že lépe ke germanizaci nejsou ani tak Češi, ale lidi z Moravy.
Et ces tests, explique Stanislav Motel, concernaient autant les adultes que les enfants.
Pak dělají testy na dětech. Je třeba známý třeba tyhle ty germanizační, že už když třeba byly lidice.
Il y a eu aussi des tests sur les enfants. Cela a commencé par exemple avec Lidice en 1942. Lorsque les enfants séparés de leur mère furent amenés à l'école, on leur dit qu'on pratiquerait sur eux des tests. C'était une équipe de médecins de Prague qui devait s'en occuper. Ils devaient mesurer les têtes, etc. On a beaucoup écrit sur ce sujet, mais surtout en Allemagne. À la mort d'Heydrich, une fondation à son nom est créée qui doit s'occuper de l'évaluation de la qualité raciale des Tchèques. Il y a des histoires folles, comme par exemple ce médecin qui travailla à la germanisation des Tchèques. Il vivra ensuite en République démocratique allemande, Allemagne de l'Est, dont il deviendra le chef de la délégation auprès de Staline.
Pour les Juifs, la question devait en revanche trouver une réponse immédiate, et ce sera le génocide, déjà bien avancé avant même la fin de la guerre. D'où cette idée, connue, mais encore sujette à débat parmi les historiens, de la fondation, par les nazis, d'un musée de la race disparue à Prague. Pour Stanislav Motel, la réalité de ce projet ne fait aucun doute.
Cette histoire de projet d'un musée juif à Prague est avérée. Il s'agissait dans l'esprit de ses concepteurs d'une sorte de skansen de la race disparue. Beaucoup de pièces devaient provenir de Pologne, d'Ukraine, etc., de pays où la communauté juive était importante avant la guerre.
Ma question qui se pose à Stanislav Motel est pourquoi Prague?
Tak Praha byla odvěka, pro ně bylo odvěka německé město, protože to byl Goldenstadt, že jo.
Prague était perçue comme une ville allemande par excellence. C'était la Goldenstadt, la ville dorée. C'était donc un choix symbolique. Aux yeux des nazis, Prague représente d'abord une vieille ville allemande, une ville des origines. Ils ne se sentaient pas à l'aise à Varsovie ou même à Moscou, mais Prague était leur ville. Par une ironie de l'histoire, Prague est aujourd'hui un centre du patrimoine juif en Europe à cause de ce projet. C'est parce qu'ils voulaient y établir ce musée que les nazis épargnèrent de la destruction la plupart des monuments juifs à Prague.
Ten skandal chtěli udělat, tak se paradoxně zachovalo i strašně moc židovských památek.
En 1946, comme nous l'avons vu dans un précédent chapitre de l'histoire sur Radio Prague, les autorités tchécoslovaques déclarent n'avoir rien à reprocher à Eichmann sur leur territoire. Plus généralement, il est encore inconnu jusqu'aux années 50, pourtant il a eu un rôle direct en Bohême-Moravie et pas seulement en Pologne ou en Hongrie, comme en témoigne l'historien Michal Frankel.
Eichmannův vztah ke genocidě českých židů je poměrně...
Le rôle d'Eichmann dans le génocide des Juifs tchèques est aujourd'hui bien connu et largement documenté dans la littérature. Cela dans deux domaines. Tout d'abord, Eichmann participa à la création de l'Office pour l'émigration des Juifs à Prague en 1939, fondé sur le modèle de l'Office viennois, qui était une œuvre d'Eichmann. Il avait amené à Prague quelques membres de son équipe. Au début, Eichmann dirigeait officiellement l'office à Prague, même si, en fait, il n'a jamais vraiment vécu dans la capitale tchèque.
Mais la réelle portée de la responsabilité d'Eichmann dans le génocide juif apparaît en filigrane dès avant la tenue de son procès à Jérusalem en
1961.
Plus tard, quand il est découvert dans les années 1950, on ne savait encore rien sur lui, il devient, à côté de Mengele, l'icône de la solution finale de la question juive. C'est alors que certains historiens tchèques, comme Václav Král, font le lien entre Eichmann et Heydrich. La deuxième implication d'Heydrich dans le sort des Juifs pragois se trouve au ghetto de Térésine. Le ghetto était placé sous la responsabilité des SS. Eichmann s'y rendait assez souvent et avait beaucoup d'influence sur le développement du ghetto. Il y possédait un bureau que les détenus devaient nettoyer.
Museli čistit a ale i třeba třetí židovský starší v Terezíně Benjamin Murmelstein.
L'un des détenus les plus âgés de Térésine, Benjamin Murmelstein, se rappelait très bien d'Eichmann. De manière symptomatique, Murmelstein, témoin clé, ne sera pas invité à Jérusalem lors du procès Eichmann en 1961. En effet, il représentait un aspect encore tabou en Israël à cette époque, celui des conseils juifs créés dans les ghettos par les Allemands. Ces conseils passaient pour avoir collaboré, ce qui dans la réalité ne fut pas
které byly vnímány jako kolaboranti. Neprávě.